Chapitre 3. Isabelle Levallier, guide. Le choix de Mademoiselle Isabelle fut accepté avec joie par toute l'assistance. Cette femme de 35 ans était bien connue pour son dévouement, son efficacité et sa conscience professionnelle. Un charme émouvant émanait de sa personne discrète et noble. Elle n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts tous deux dans un accident de train en 1913, alors qu'elle venait de commencer ses études aux Beaux-Arts. Elle avait vainement essayé de se faire accepter comme artiste peintre dans un métier que ses pratiquants considéraient comme une profession d'homme. Puis, elle avait été guide au musée d'art moderne et avait été enfin engagée en 1920 au Louvre par le prédécesseur de M. Gabillon. Comme sa femme et lui n'avaient pas d'enfants, il l'avait pour ainsi dire adoptée. Sa ressemblance assez frappante avec la Joconde l'avait très naturellement menée vers les peintures de la Renaissance. L'Isabelle, comme l'appelait M. Gabillon, était très appréciée des groupes de visiteurs. Elle parlait un bon anglais et savait assez d'allemand pour se faire comprendre des visiteurs d'Europe centrale. Les photographes amateurs l'obligeaient à poser côte à côte avec sa sosie. M. Gabillon avait dû mettre un terme au phénomène en interdisant tout simplement aux visiteurs de prendre des photos des objets exposés au musée. Le brigadier Béchou avait accepté non sans rechigner la mission de confiance qu'on lui avait imposée. Il arrivait au musée tous les soirs à 9 heures. Il s'installait sur une méridienne dont la tête était appuyée contre le mur, sous la surveillance des yeux dépourvus de cils et de sourcils de la brave Mona Lisa. À plusieurs reprises, Isabelle Levallier avait, à sa demande, déplacé légèrement le tableau. Cela avait immédiatement provoqué le déclenchement de sonneries stridentes dans tout le musée et l'arrivée des gardes au galop et l'arme au poing. Le mécanisme provoquait aussi la fermeture automatique de volets d'acier cachés dans l'épaisseur des murs au-dessus des fenêtres de la salle. Donc, Béchou veillait, le système électrique fonctionnait parfaitement et les gardes faisaient leur ronde. Lupin n'avait pas grand-chance de s'approprier le tableau par la force. Mademoiselle Isabelle arrivait le matin à 8 heures et renvoyait Béchou après avoir constaté que rien n'avait bougé. Le dimanche 31, la foule se pressait et on exigeait d'ouvrir la salle des peintures Renaissance. On voulait voir la Joconde pour la dernière fois. Isabelle resta inflexible. Les ordres étaient clairs et nets, interdiction d'entrer. D'ailleurs, elle déclarait ne pas avoir la clé de la salle. Elle fut invectivée assez violemment pendant toute la matinée, mais elle tint bon. Elle ne voulut pas accabler M. Gabillon, qui s'était enfermé dans son bureau, et commençait à se ronger les ongles. L'après-midi passa tant bien que mal, et à 15 heures, le service d'ordre mit tout le monde dehors sans ménagement. Ce fut une vraie cohue vers l'extérieur. Les gens se plaignaient du manque de considération et de la brutalité des employés. Certains réclamaient leur argent et criaient au scandale et à l'inadmissible. À 4 heures, le calme revint enfin dans la respectable institution. M. Gabillon sortit de sa tanière, remercia son monde pour les efforts du jour et promit même une prime qui serait versée avec le salaire du mois de mars. Puis tout le monde se retira. L'Isabelle proposa de veiller avec lui et Béchou cette nuit-là, mais il refusa catégoriquement. « Vous n'avez donc plus confiance en moi ?» dit-elle en souriant. « Je vais m'en aller avec la Joconde sous le bras. » « Et sauter dans la voiture de Lupin qui vous attend dehors » répliqua-t-il en riant. Il la remercia chaleureusement et la pria de revenir le lendemain matin, bien que le musée soit fermé le lundi. Elle accepta et sortit. Monsieur Gabillon appela Raoul au téléphone. Celui-ci lui répéta qu'il ne se passerait rien s'il ne commettait pas d'erreur. Et ils conclurent de se retrouver le lendemain après-midi au Café des Princes. La ligne de défense s'organisa. Béchou arriva en trottinant plutôt que d'habitude. M. Gabillon l'invita à dîner dans un petit restaurant voisin où ils envisagèrent la situation sous toutes ses coutures. À 9h30, ils fermaient sur eux la porte de la salle des peintures Renaissance et la verrouillaient de l'intérieur. M. Gabillon s'installa dans un fauteuil avec des livres et une bouilloire de café à portée de la main. Il était décidé à ne pas dormir. Bichu déclara que, pour sa part, il ne craignait pas de s'endormir. Il affirma que rien ne se passerait cette nuit-là. Il connaissait trop son Lupin pour que celui-ci ait la bêtise d'agir à minuit. Il n'avait pas tort. Monsieur Gabillon le sentait bien, et au fur et à mesure que l'heure fatidique fixée par l'aventurier approchait, il devenait plus calme et dominait l'angoisse qui l'avait accablé pendant toute cette semaine. 5 minutes avant minuit, les deux hommes se levèrent et regardèrent attentivement autour de la salle. Lupin n'allait-il pas jaillir d'une trappe ouverte sur le plancher, ou bien tomber du plafond, à cheval sur le grand lustre Louis XVI ? Minuit sonna à toutes les pendules et au clocher avoisinant. Béchou porta la main à sa gorge. Elle était bien sèche, mais elle était là, sa gorge. Par association, il porta son regard sur la Joconde. Elle aussi, elle était bien là, et le regardait affablement. Les minutes passèrent. Soudain, Monsieur Gabillon éclata de rire. Béchou le regarda d'un air féroce, croyant à une attaque à la Lupin, mais il se calma aussitôt. Non, cet homme respectable n'était pas Lupin, ni même Jim Barnett, et sûrement pas Jean Denrys. C'était bien Monsieur Gabillon qui riait. D'ailleurs, ce rire n'avait rien du rire goguenard de Lupin. C'était le rire de quelqu'un qui a l'air de se réveiller et de se rendre compte que ce n'était qu'un rêve et que tout allait bien. « Je crois que Lupin n'a pas tenu son engagement, » murmura le conservateur. « N'en soyez pas si sûr. Il est terrible, l'animal, » répondit Béchou en frémissant malgré lui. Une tasse de café acheva de les remettre totalement d'aplomb. Le conservateur rassura les gardes qui avaient frappé à la porte. « Tout va bien, mais gardez l'œil !» La nuit se passa sans autre incident. Ils somnolèrent à tour de rôle, et enfin le matin arriva, rassurant et sympathique. À 8 heures, Isabelle frappa à la porte et M. Gabillon lui ouvrit. « Elle est encore là, » annonça-t-il en montrant sa protégée qui, elle aussi, gardait son visage paisible, pendu sur son mur. « J'en suis bien contente, » dit Isabelle. « J'avoue que je n'étais pas tranquille. »
« Il faut quand même rester prudent, » objecta Béchou. « La nuit est passée, mais il faut redouter un tour de passe-passe pour aujourd'hui. »«
Nous serons prudents, » dit M. Gabillon avec gravité. « Isabelle, je crois que je vous ai fait venir pour rien ce matin. Dites-moi, ce tableau est bien la Mona Lisa de Léonard de Vinci ?» Isabelle tressaillit et vivement s'approcha du tableau. Elle saisit le cadre de ses deux mains et l'attira à elle. Les sonneries se mirent à tapager dans tout le palais et les gardes accoururent immédiatement à l'appel. Isabelle contempla attentivement le portrait, le retourna, l'examina et le soupesa. Elle regarda sous le cadre. Puis, rapprochant le tableau de la fenêtre, elle déclara. « Il n'y a pas l'ombre du moindre doute, monsieur, c'est bien la Joconde. » Monsieur Gabillon eut un soupir de soulagement. Isabelle remit le système en fonction, raccrocha le tableau et se retira. Béchou prit congé du conservateur. Les gardes allèrent déjeuner chacun à leur tour et reprirent leur faction. Monsieur Gabillon se décida à quitter le musée. 6 agents étaient à leur poste devant les grilles et il y en avait encore une douzaine aux alentours. Le conservateur du Louvre déjeuna chez lui à midi avec sa femme. Il parcourut les journaux. Les murs ayant des oreilles, on savait déjà que rien ne s'était passé et que Lupin, selon l'expression même de M. Gabillon, n'avait pas tenu son engagement. Les journalistes et les lecteurs étaient divisés en 2 camps farouchement opposés, les lupinards et les anti-lupinards. Ces derniers estimaient, à l'instar de l'ami public, que Lupin n'avait jamais existé, que c'était une utopie, un conte à dormir debout. Le 1er avril n'avait rien perdu de son charme, ni le canular de son éclat, comme disait Gaston Leroux. Les lupinards étaient eux-mêmes divisés en 2 camps nettement distincts. Certains prétendaient que c'était un truc de leur héros pour rentrer dans la place, d'autres maintenaient que la substitution avait bel et bien eu lieu et que la peinture du musée du Louvre n'était que la vulgaire réclame d'un coiffeur pour dames. À 5 heures, M. Gabillon rejoignait Blaisy et Daverny au café. La conversation était fort animée et Raoul Perroret très excité.
« Ne plaisantez pas avec ce personnage, mon cher Blaisy. À la place de M. Gabillon, je ne serais pas tellement tranquille.
Le bonhomme est capable de choses qui tiennent presque une surnaturelle.
C'est un revenant, alors, ricana Blazy.
Ce n'est pas un revenant. Il est bien vivant et il est d'une habileté confondante.
On dirait que vous le connaissez.
Non, mais j'ai beaucoup étudié son cas. Il est des plus intéressants. Il n'y a rien de comparable dans toute l'histoire de l'aventure.
Je ne sais quoi penser, dit M. Gabillon avec désespoir. J'ai bien vu ce matin que rien n'avait bougé. C'est impossible qu'il se soit passé quelque chose. C'est mathématique.
Alors que craignez-vous?
J'avoue que je n'en sais rien, évidemment. C'est absurde, c'est impossible.
Impossible n'est pas Lupin, railla Blazy.
M. Gabillon sembla perdre un instant patience et dit à son cousin.
Mais ça suffit de ricaner comme ça. C'est agaçant, tu sais.
Il y aurait un moyen bien simple d'en avoir le cœur net, suggéra finalement Raoul.
Lequel ?
Le faire expertiser.
Effectivement, effectivement, comme ça je pourrais en avoir le cœur net, dit M. Gabillon en répétant les expressions mêmes de Raoul.
Nous travaillons avec un expert de tout premier plan, Maître Dandelin. Je pourrais lui en toucher deux mots la semaine prochaine.
Et pourquoi pas cette semaine ? Demanda Raoul.
Il est en voyage dans le Périgord toute cette semaine et ne rentrera que lundi prochain.
Il n'y a personne d'autre ?
Si, bien sûr, il y a bien Maître Ruspan, mais il exerce à Rouen.
Rouen, c'est à 3 heures d'ici en voiture, dit Raoul. Ce n'est pas la mer à boire.
C'est vrai, concéda M. Gabillon, songeur.